Les mystères du Palais Royal, cinquième partie. Chapitre 7. L'échevinage et le cordon noir. Après la conversation que nous venons de rapporter dans le précédent chapitre, on s'occupa de l'achat des étoffes, qui était le véritable but pour lequel on avait demandé Durand, et on procéda à un nouvel examen des échantillons. Mais alors, Mademoiselle Artémise, qui jusque-là a été reléguée involontairement à l'arrière-plan, prit le premier rôle. La comtesse Douairière s'effaça à son tour, et la fiancée du grand d'Espagne discuta et choisit avec une supériorité qui prouvait une connaissance très approfondie de la matière. Nous disons « choisie » et nous nous servons là d'un mot qui n'est point exact dans la situation, car en réalité, il fut décidé qu'on prendrait de toutes les étoffes. Quand cette importante opération fut conclue, Madame de Saint-Anille dit au marchand. « Mon cher Durand, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Vos moments sont précieux, n'en abusons pas. Faites-nous livrer aujourd'hui, s'il vous plaît, toutes ces bagatelles. Et quant au paiement, entendez-vous avec mon intendant que voici. C'est son affaire. »« Madame la comtesse, s'écria Durand, c'est m'humilier que par les paiements pour une bagatelle, comme vous dites. » « Aussi, je n'en parle pas, c'est Riva que cela regarde. Je vais songer à votre beau-père et à vous, mon cher Durand. Ayez donc l'esprit en repos. Le cordon noir et l'échevinage vous sont acquis. Riva, accompagnez ce cher Durand. » Au moment de sortir, l'intendant se retourna. « Madame la comtesse, dit-il, j'ai trouvé un hôtel. À vendre ou à louer ? À vendre. Vous paraît-il convenable ? Tout à fait convenable. Quel quartier ? Quartier du Marais. Le prix ? Minime, en égard à l'importance de la propriété. 400 000 livres. On est pressé d'en finir. Seulement, on veut de l'argent comptant. Eh bien, donnez-en, c'est facile, ce me semble. Ainsi, Madame la Comtesse m'autorise à terminer ? Oui, faites rédiger le contrat de vente. Qu'on me l'apporte à signer et payer. Madame la comtesse ne veut pas visiter l'hôtel avant qu'il lui appartienne ? Non, je m'en rapporte entièrement à vous. Il y a des réparations à faire. Nombreuses ? Mais oui. Raison de plus pour terminer au plus vite. Finissons-en aujourd'hui et ayez des ouvriers demain. J'obéirai strictement aux ordres de Madame la comtesse. Et Riva sortit en compagnie de Monsieur Durand. « Ah ! S'écria le marchand dans l'antichambre. Quelle belle chose que ces fortunes de la haute noblesse ! Payer ainsi, du jour au lendemain, 400 000 livres, comme s'il s'agissait d'un petit écu. C'est superbe !»« Oui, répliqua négligemment l'intendant. Nous avons en effet un coffre-fort assez bien garni. 400 000 livres, c'est pour rien. À propos, je pense que vous avez été content de Madame la comtesse. » « Content ? Dites enchanté, enthousiasmé. Que vous ai-je dit ? Si elle s'intéresse à vous, vos affaires deviendront les siennes. »« C'est vrai, mon digne ami, mais quel remerciement ne vous dois-je pas ? À moi ? Et sans doute, quel coup d'épaule vous m'avez donné ? En aucune façon. Allons, nierez-vous que ces renseignements arrivés sur mon compte à votre noble maîtresse émanassent de vous ? Mais, Agamemnon, ne niez pas, je vous en supplie. Eh bien, puisque vous devinez tout, j'avoue. À la bonne heure. Aussi, voyez-vous, admirable ami, pour vous, je donnerai ma femme. Riva fit une légère grimace. Le sacrifice de Madame Durand ne lui semblait pas une preuve incontestable de dévouement. Les deux hommes se séparèrent. L'intendant alla s'occuper de cet hôtel qu'il achetait pour la comtesse de Saint-Anille. Durand, rentré dans ses magasins, employa tout son monde à couper et à honner les étoffes. Avant le soir, d'énormes ballots de marchandises encombraient l'antichambre du premier étage. On annonça Riva dans le cabinet de Durand. « Eh bien ? » demanda ce dernier. « Votre acquisition ?»« Terminée. L'hôtel est à nous. Le contrat a été rédigé et signé séance tenante. Je viens de payer le prix S-main du vendeur. »« Mes compliments ! Je les accepte. L'affaire a été, si j'ose le dire, habilement menée. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit.
De quoi donc ?
Nous sommes livrés de vos marchandises.
Oui, depuis 1 heure.
Notre facture est-elle faite ?
Ah, pour cela, non.
Tant pis.
Qu'est-ce que cela vous fait ?
Ce que cela nous fait, mordieu ! Cela nous fait que nous voulons vous payer, et que votre facture n'étant pas prête, nous ne le pouvons pas.
Durand laissa tomber ses 2 bras le long de son corps.
« Payer ! S'écria-t-il. Encore payer ! Toujours payer ! Mais quels gens êtes-vous donc ? Vous n'avez que le mot paiement à la bouche !
Nous sommes des gens exacts, réguliers et qui n'aiment point les dettes, répondit gravement Riva.
Et il n'est point question de dettes.
Mais on n'a jamais vu payer une facture de cette importance 50 minutes après livraison.
Cela ne s'est jamais vu, dites-vous ?
Non.
Eh bien, cela se verra, voilà tout.
Bah, vous ignorez le chiffre, et vous ne paierez que quand cela me conviendra.
J'ai des ordres formels, et sous peine de déplaire à Madame la Comtesse, il faut que je vous paie.
Écoutez, mon excellent ami.
J'écoute.
Vous savez qu'outre les étoffes pour livrer, robes de bal, de ville et de cour, étoffes pour ameublement, etc., j'ai pris l'engagement de fournir à vos nobles maîtresses lingerie et dentelle.
Oui, eh bien.
Eh bien, ne nous embrouillons point dans nos comptes. Quand j'aurai achevé toutes ces fournitures, je vous présenterai une facture générale, et je ne refuserai pas d'en toucher le montant.
Durand, Durand, vous abusez de la sympathie que vous m'inspirez. Vous allez me mettre en mauvaise situation vis-à-vis de la comtesse.
Elle ignorera si je suis soldée.
Si elle m'interroge.
Eh, mon Dieu, vous répondrez ce qui est vrai, que vous n'avez pas encore pu me faire donner ma facture.
Vous le voulez absolument ?
Je vous en prie.
Allons, soit, je cède, mais je suis trop faible.
Durand se confondit en remerciements et l'intendant regagna le second étage. Cependant, Durand, après son entretien avec Madame de Saint-Agnille, n'avait pu prendre assez sur lui pour imposer silence à sa joie et à son orgueil. Pris par son faible, chatouillé aux endroits les plus sensibles de sa vanité, enivré déjà du retentissement futur de sa gloire prochaine, il s'était hâté de répandre le plus tôt possible la nouvelle des honneurs qui allaient fondre sur lui. Avant que 24 heures se fussent écoulées, cela était le bruit, la nouvelle, la rumeur du quartier. On venait complimenter Durand. Quelques-uns, pour prendre date, commencèrent à lui demander sa protection.
« Soyons bons princes, » se disait-il en faisant la roue.
Et il accueillit avec une condescendance pleine de dignité les flatteurs et les quémandeurs. Cependant, la famille entière était dans un ravissement facile à comprendre. Le beau-père, ce docteur en chirurgie, inventeur d'un onguent et d'un élixir, et entre les mains duquel plus de 10 000 personnes avaient passé, selon l'expression de Durand, voyait déjà sur sa poitrine le cordon noir de l'ordre de Saint-Michel, et dans sa morgue il disait
« Eh parbleu, je l'ai bien mérité !»«
Mon cher Durand, » disait Agamemnon Riva, « prenez s'il vous plaît une feuille de parchemin, ou tout au moins de votre plus grand papier ministre. »«
Pourquoi faire ?»«
Pour écrire. »«
Quoi donc ?»«
Vos noms, prénoms, âges, qualités, titres, etc. » Le tout de votre plus belle écriture.
Mais dans quel but ?
Comment ? Vous ne devinez pas ?
Ma foi, non.
Il s'agit de l'échevinage.
Ah bah !
Et sans doute. Et la note en question va être jointe, comme document à consulter, à la demande que rédige en ce moment Madame la Comtesse, et que je dois porter ce soir à Monseigneur le Cardinal Dubois. Il n'en fallait pas si long pour faire hâter M. Durand. Il prit une feuille de parchemin, saisit une plume et écrivit les indications de rigueur avec une perfection de calligraphie à désespérer M. Joseph Prudhomme, élève de Brard et de Saint-Omer, si M. Joseph Prudhomme avait existé dans ce temps-là. Chapitre 8. Le secret du cardinal. Le lendemain, Agamemnon Riva renouvela sa démarche auprès de Durand. Mais cette fois, c'était relativement au cordon noir du chirurgien. « Ah !» dit-il quand Durand eut achevé d'écrire les notes nécessaires. « Si j'étais sûr de votre discrétion, mon bon ami... »«
Eh bien ?» demanda vivement le bourgeois.
« Je pourrais... »«
Vous pourriez ?»«
Vous montrer... »«
Quoi donc ?»«
Mais non, il vaut mieux me taire. Je n'ai déjà que trop parlé. »«
Mon ami, mon excellent et précieux ami !» s'écria Durand, dont la curiosité était excitée outre mesure. « Je suis certain que vous me cachez quelques bonnes nouvelles. »«
Ma foi, compère, vous devinez juste. »«
Oh, qu'est-ce que c'est ?»«
Vous ne le saurez pas aujourd'hui. »«
Je vous en prie. »«
Non pas. »«
Je vous en conjure. »«
Nenni. »«
Je vous en supplie. » »«
Inutile d'insister. » »«
Mais pourquoi ? Enfin pourquoi ?»«
Parce que je suis un bavard. »« Que vous ne pourriez point tenir votre langue ?» et qu'il vaut mieux ne rien vous dire.
« Agamemnon, je vous jure de ne point souffler mot. »«
Oui, oui, vous jurez, mais ces serments-là, on ne les tient jamais. »«
Eh bien, je vous donne ma parole d'honneur. »«
Votre parole d'honneur ?»«
Oui. »«
Allons, il n'y a pas moyen de douter de vous plus longtemps. Vous allez tout apprendre. »
Durand piaffait d'impatience.
« Vous savez, » commença l'intendant, que je suis allé moi-même hier porter au cardinal Dubois la missive de ma noble maîtresse.
Oui, oui.
Le cardinal a fait une réponse.
Si tôt?
Est-ce qu'on fait jamais attendre une heure une haute et puissante dame comtesse de Sainte-Anille, baronne du Haut-Pas, etc., etc.? Demanda Riva majestueusement.
C'est juste, murmura Durand.
Pardon, mille fois pardon. Je ne sais vraiment pas où j'avais la tête. Cette réponse, reprit Agamemnon, je l'ai transmise à ma maîtresse qui l'a lue.
Et ensuite ?
Ensuite, elle a daigné m'en donner connaissance et m'autoriser à la conserver.
Si bien que cette réponse du cardinal, vous l'avez.
Je l'ai.
Sur vous ?
Sur moi.
Et c'est elle que vous allez me montrer ?
Et il le faut bien. « Terrible curieux que vous êtes !»
Et l'intendant, tirant de sa poche un pli scellé d'un large cachet de cire rouge, brisé en deux et portant encore l'empreinte du sceau du ministre, timbré du chapeau de cardinal, tendit ce pli à Durand. Ce dernier l'entr'ouvrit avec le plus profond respect et lut tout haut d'une voix émue et entrecoupée. « Ma chère comtesse, je reçois à l'instant votre supplique relative à un honnête homme à qui vous portez intérêt et pour qui vous demandez l'échevinage. Je vais soumettre à son Altesse le Régent, mon maître, votre demande et les pièces à l'appui. Mais ce n'est là qu'une affaire de forme, et comptez que la chose est faite. Heureux de vous prouver en cela, ma chère comtesse, que vous n'avez pas d'ami plus empressé que celui qui se dit avec passion votre respectueux serviteur. Dubois, cardinal ministre.
Mais alors, balbutia Durand en proie à un véritable délire.
Mais alors, c'est une chose sûre?
En doutiez-vous, mon Dieu? Demanda Riva d'un air offensé.
Non,
se hâta de répliquer le marchand. Puis il ajouta. Monseigneur le cardinal est absolument à la dévotion de madame la comtesse.
Oh, absolument!
Il n'a rien au monde à lui refuser, quoiqu'il ne l'aime guère.
Ah, il ne l'aime guère?
Dites qu'il la déteste.
Bah, et pourquoi?
Ceci est presque un secret d'État. C'est vous dire que je ne puis le confier à personne.
Oh, à moi, à moi!
Pas plus à vous qu'à un autre.
Versez-le dans mon sein, ce secret, Agamemnon. Mon sein, c'est la tombe.
Bref, Riva se défendit. Durand insista. Il insista si fort et si longtemps que l'intendant finit par céder, ainsi que du reste, il faisait toujours. « Figurez-vous donc, dit-il, que le hasard a mis entre les mains de madame la comtesse une arme terrible, avec laquelle elle pourrait perdre le ministre et ruiner de fond en comble sa haute fortune. »«
Ah ! Voilà qui est incroyable !
Ne croyez-vous point, par hasard ?
si fait, je crois, de toute mon âme. Mais ça n'empêche pas que c'est incroyable.
Je vais m'expliquer et vous comprendrez. » Durand redoubla d'attention. Agamemnon continua.
« La première condition pour être cardinal, n'est-ce pas, c'est d'être prêtre. »
« Ça ne fait pas un doute. »
« La première condition pour être prêtre, n'est-ce pas, c'est d'être célibataire. »
« Tout le monde sait cela. »
« Oui, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le cardinal Dubois ne peut être réellement ni cardinal ni prêtre. »«
Oh oh, et pourquoi ?»«
Parce qu'il est marié. » »«
Marié ?»
Tout ce qu'il y a de plus marié. Et sa femme existe.
Agamemnon, en êtes-vous bien sûr?
L'acte de mariage de son éminence est entre les mains de ma noble maîtresse. Telle est l'arme dont je vous parlais.
Et le cardinal le sait-il?
Il le sait. Voilà pourquoi il est tout à la fois l'esclave et l'ennemi de madame la comtesse de Sainte-Anille.
Mais c'est un secret d'État, cela,
murmura Durand.
Parbleu, je vous l'avais bien dit, mon cher.
Et ce secret, gardez-le, je vous le conseille.
Car un mot dit imprudemment peut vous ouvrir les portes de la Bastille, dont vous ne sortiriez plus.
Durand devint très pâle et ses dents claquèrent.
Qu'avez-vous ? Demanda Riva.
J'ai peur.
De quoi ?
De la Bastille.
Il ne tient qu'à vous de l'éviter, ce me semble. Soyez muet et le danger n'existera pas.
Hélas, balbutia Durand,
on peut parler en dormant, et ma femme est si bavarde.
La conversation s'arrêta là. Le lendemain, Riva avait un nouveau billet à montrer. Celui-ci, toujours à l'adresse de madame la comtesse de Sainte-Anille, émanait du ministre de la Maison du Régent, chargé du département de Paris. Il demandait des renseignements exacts et étendus sur les découvertes savantes et les cures merveilleuses du vieux chirurgien. On avait besoin de ces documents pour dresser les lettres patentes du don de la croix de Saint-Michel. On ne perd pas un instant. Toute la famille, sur laquelle devait rejaillir un si grand honneur, se met à l'œuvre avec empressement. La nomenclature est dressée. Les découvertes admirables sont analysées ainsi que leurs résultats incomparables. Les attestations des malades traités par le docteur ou de leurs héritiers sont quêtées, achetées, obtenues, classées. Un énorme dossier est remis entre les mains de madame la comtesse de Sainte-Anille. Maintenant, tout est en règle. Désormais, les choses marcheront un train de poste.
Chapitre 9. Les diamants. Il est une chose cependant, hâtons-nous de le dire, qui marchait encore plus vite que l'échevinage de Durand et le cordon noir du beau-père. C'étaient les innombrables fournitures faites par le bon bourgeois à madame la comtesse de Sainte-Anille et à sa fille. Ces fournitures se montaient déjà à une somme ronde de 60 000 francs tout au moins. Et chaque jour, Durand, poussé par cet insatiable appétit du gain que rien ne peut rassasier chez les braves marchands parisiens, faisait aux deux nobles dames, ou leur faisait faire par son excellent ami Agamemnon Riva, des offres toujours acceptées. De temps à autre, l'intendant parlait à la vérité d'arrêter le compte et de le solder. Mais Durand ne manquait jamais de répondre.
« Est-ce que vous croyez par hasard que j'ai besoin d'argent ?
Vous me paierez dans quelque temps, après le double mariage de votre maître le comte Scipion et de votre jeune et belle maîtresse mademoiselle Artémise. Une véritable perle de beauté, sur ma parole. »
Et Riva, craignant de blesser la susceptibilité ombrageuse de son ami Durand, n'insistait point outre mesure. Enfin, on reçut officiellement la nouvelle que le comte Scipion serait sous 8 jours à Paris, en compagnie de toute la famille du grand d'Espagne de première classe, père de sa belle et très illustre fiancée. Ceci répandit l'allégresse la plus vive dans toute la maison, aussi bien au premier qu'au second étage.
« Ah, pardieu, mon compère !» dit ce jour-là Agamemnon Riva à Durand. « Vous devriez bien me donner à déjeuner demain matin. Un petit déjeuner sans façon, en tête à tête. Nous fêterions le verre en main l'heureux événement qui va nous combler de joie.
Durand trouva l'idée délicieuse et promit à Riva de lui faire déguster certains vins dignes de la cave du Palais-Royal et même des celliers du château de Sainte-Anille. Le lendemain était un dimanche. Il fut convenu que le déjeuner aurait lieu à l'issue de la grand-messe, à laquelle Durand, en qualité de marguillier, ne pouvait sous aucun prétexte se dispenser d'assister. Ajoutons que pendant la messe, Durand, si recueilli et si édifiant d'ordinaire, eut plus d'une distraction coupable. Il ne pouvait s'empêcher de regarder du coin de l'œil le banc d'honneur réservé aux échevins. Et il s'avouait tout franchement qu'il y ferait assez bonne figure. Que voulez-vous ? On a beau être marguillier, fût-ce de la paroisse des Saints Innocents, on n'en est pas moins homme. Il faut toujours payer son petit tribut aux humaines faiblesses. À l'heure dite, Riva arrivait. Les deux amis se mirent à table. Le déjeuner était bon, il fut long, joyeux et surtout arrosé par d'amples et fréquentes libations. Durand n'avait point fait d'avance un trop grand éloge des produits de sa cave. Riva se plut à le proclamer. Le futur échevin devint guilleret, puis égrillard. Il chanta la gaudriole et raconta quelques anecdotes plus que badines dont il était le fortuné héros. Le dessert fut servi. Les deux compères appuyèrent leurs coudes sur la table et la conversation continua, entre la poire et le fromage, comme on disait alors, comme on dit peut-être encore aujourd'hui. Durand narra son aventure avec la belle fourreuse de la rue du Plat d'Étain, à laquelle il avait fait don, ma foi, ni plus ni moins que s'il avait été le maréchal duc de Richelieu, connu pour sa magnificence avec les femmes, à laquelle il avait fait don, disons-nous, d'une superbe bague enrichie de brillants, du prix de 1100 livres. 10 minutes furent consacrées par Durand à la description de cette bague merveilleuse. Il ne fit point grâce à Riva d'une seule des petites pierres qui entouraient le gros diamant. « Je vois, mon cher, dit l'intendant, que vous appréciez les pierreries et que vous les aimez. » « À la folie ! Êtes-vous connaisseur, au moins ? Hé hé ! Mais là, ce qu'on appelle connaisseur ! Franchement, je m'en pique. Dans ce cas, l'on pourrait vous faire voir quelque chose qui mériterait de fixer votre attention. Ah, voyons ça ! Riva ne se fit pas prier. Il tira de la poche de côté de son habit couleur tabac d'Espagne un paquet de forme oblongue, entouré de plusieurs doubles de papier gris. Il défit cette quadruple enveloppe et Durand vit apparaître un écrin de chagrin vert d'eau. Riva appuya sur un ressort. L'écrin s'ouvrit. Durand poussa un cri de surprise et d'admiration. Quoique la clarté du jour soit sans contredit moins favorable que celle des bougies et des lustres pour mettre en valeur l'éclat des pierreries, il était impossible de n'être point ébloui. L'écrin renfermait une rivière, une aigrette, des boucles d'oreilles, plusieurs épingles, des broches, des bagues, le tout en diamants d'une eau admirable et de la grosseur la plus surprenante. Il y avait en outre un papillon en émeraude, rubis, topaze et saphir. Riva accorda quelques minutes à la première admiration de Durand. Puis il lui dit « Que vous en semble ?»« Admirable ! Magnifique ! Princier ! Royal ! » s'écria le marchand enthousiasmé. « Qu'est-ce que vous estimez tout cela ?»« Mais 500 000 livres au moins !»« Oui, au moins !» appuya l'intendant. « Je soupçonne fort ces bijoux d'être le cadeau de noces de Madame la Comtesse Douairière à Monsieur le Comte son fils ou à Mademoiselle sa fille. »« Oui, cela était destiné à mon jeune maître, le Comte Scipion. »« Comment cela était ? Ce n'est donc plus ? Oui et non, cela dépend. »« De quoi ? Oh, mon Dieu ! D'un rien, d'une bagatelle, mais très contrariante. » Un rien ? Une bagatelle ? Quel est donc ce mystère ? Je ne sais si je dois... Oui, vous devez, mon bon ami, mon excellent ami. Au fait, je n'ai pas de secret pour vous. Non, vous n'en avez pas, et bien vous faites. Il faut vous dire d'abord que le jeune comte Scipion est un gentilhomme admirable.
« Comme toute sa race, mordieux !» s'écria Durand.
Riva salua, puis il reprit.
« Oh !
Mais vous ne pouvez pas vous faire une idée de sa grandeur d'âme, de son admirable désintéressement. Figurez-vous que ce gentilhomme, dont la fiancée possède, du chef de sa mère, 1,5 million de revenus, sans compter la fortune de son père et les espérances, a refusé d'entrer en possession des biens de feu Monsieur le comte de Saint-Agny.
Ah bah ?
Oui, il dit qu'il ne veut point que Madame la comtesse Douairière se dépouille pour lui, et il s'est contenté de 100,000 écus de rente de l'héritage de son oncle, le grand prieur de Léaumont.
Morbleu ! S'écria Durand en frappant sur la table.
« Voilà un digne garçon !» Madame la comtesse, poursuivit l'intendant, touchée du trait, comme de raison, aurait voulu reconnaître par quelque beau présent une telle générosité.
« C'est justice, ma foi !»
En conséquence, elle m'a dit de chercher.
« Et vous avez cherché ?»«
Naturellement. Hier au soir, on m'a mis en rapport avec le juif auquel appartiennent ces diamants. Savez-vous combien il me les fait ?»
500,000 livres.
Non, 400.
Mais ils valent plus.
Eh, je le sais bien. Seulement, il paraît que ses affaires sont embrouillées, qu'il quitte la France. Et il a mis pour condition, à la vente, que la somme entière lui serait versée dans les 24 heures.
Cela vous est bien égal, dit Durand.
C'est ce qui vous trompe.
Comment?
En rentrant, j'ai vérifié l'état de ma caisse. L'achat de l'hôtel nous a mis à sec. Je n'ai trouvé que 350,000 livres.
Joli acompte.
Je l'ai offert au juif, en lui proposant d'acquitter le reste sous 8 jours.
Il a accepté, bien entendu.
Non, je vous répète qu'il part. Il lui faut tout ou rien.
Ah ah!
Moi, j'ai fait un coup de ma tête.
Lequel?
Ce matin, j'ai pris les diamants et je les ai portés à Madame la Comtesse en la mettant au fait de la situation.
« Alors, m'a-t-elle dit, vous ne pouvez pas payer ?»«
Non, madame, puisqu'il nous manque 50,000 livres, que nous sommes au 25 et que nous recevons de fonds que le 30 courant. »«
Eh bien, rendez ce diamant à celui à qui ils appartiennent. »«
Mais, Madame la Comtesse, il n'y a pas de mais. Vous ne pouvez payer, rendez. »
Mais il y a un moyen.
Un moyen?
Oui, madame la comtesse.
Et quel est-il?
Ici, l'intendant jugea à propos de s'interrompre.
Ma foi, s'écria Durand, je ferai comme madame la comtesse de Saint-Agny, et je vous dirai.
Le moyen, quel est-il?